Your friends.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et c'est Jeudi Noir qui commence avec The Nation of Ulysses et le morceau Cool Senior High School. High School, ça veut dire haute école, si on traduit comme ça en français. Alors, je vous dirai ça tout à l'heure pourquoi, mais on est en compagnie donc de Jean-Mathias, exceptionnellement avec Michel pour cette spéciale littéraire. Hein, vous savez, ce qu'on appelle les marathons qui ne sont pas des marathons. Donc voilà, donc on est à trois aujourd'hui, c'est cool. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre de Sylvie Denis. Donc Sylvie Denis, c'est une autrice française de nouvelles, beaucoup au départ, depuis la fin des années 80. Elle est aussi critique, anthologiste, traductrice. Elle a particulièrement traduit Megan Lindholm, vous savez, Robin Hobb, dont vous avez beaucoup parlé ici. Voilà, directrice de revue SF, donc c'est une figure de la SF locale. Et son premier roman a été publié en 2004 et ça s'appelle Haute École, donc le rapport avec High School. Complètement, sauf qu'on ne t'entend pas Jean-Mathias, je ne sais pas quel micro tu as, donc voilà. Donc Jean-Mathias fait des blagues mais on n'entend pas parce que le micro est coupé. Ouais, c'est vrai, donc on va essayer de brancher son micro parce que ce n'est pas assez interactif. C'est quelle couleur ? Et donc, pendant que Michel essaie d'allumer le micro Jean-Mathias, donc Harry Potter, bah, ce sont des enfants qui ont des pouvoirs de sorciers et qui vont à une école de sorcellerie pour progresser. Et donc là, on se dit, c'est cool. Non, c'est Harry Potter. Et bah, pas du tout, parce qu'en fait, ces enfants-là, ils sont enlevés déjà dès le plus jeune âge, dès qu'on repère qu'ils ont des semblants de pouvoir. Et on fait tout pour que ils ne développent pas l'ensemble de leurs pouvoirs, mais un seul, qui soit hyper spécialisé. Et qu'adultes, ils soient juste, par exemple, pousseurs. Les pousseurs, ce sont des gens qui vont ouvrir les portes. Ils vont simplement ouvrir des portes. Il y a les lampes, les lumières, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, ils vont juste servir à éclairer la ville. Et donc, on les réduit dans un esclavage plus que relatif, j'ai envie de dire, où on les hyper spécialise dans une tâche dans laquelle ils vont vivre, naître, mourir, voilà, être élevés. Et là-dessus, il y a... Et donc, Faut que tu branches le micro de Jean-Mathias parce qu'il dit plein de choses pertinentes, mais on n'entend pas.
Je pense qu'il est noir.
Voilà. Non, il est blanc. Et donc, qu'est-ce que je disais? Parce que là, on prend déjà du retard à cause de ces problèmes techniques. Et donc, à ce moment-là, donc, c'est une période révolutionnaire de ce monde de la haute école. Donc, c'est un monde de fantasy, hein, quand même, de Rick Fantasy. Et il y a des résistances qui se créent, mais il y a différentes factions révolutionnaires. Et on se rend compte que la plupart des gens qui veulent renverser le pouvoir en place, hein, il y a deux gros états principalement qui tolèrent plus ou moins la sorcellerie, mais plutôt moins que plus, on se rend compte qu'ils n'en ont strictement rien à carrer du sort des sorciers. Ils veulent renverser le pouvoir, nanana, mais en gros, si les sorciers peuvent continuer juste à allumer des lumières ou pousser des portes ou lever des ponts-levis, c'est très bien. Et il y a une des factions révolutionnaires qui est tenue par des sorciers eux-mêmes et qui essaie justement d'imposer aussi leurs idées, juste simplement leur existence aux autres factions révolutionnaires, juste être pris en compte dans cette révolution. Et donc c'est plein de persos vraiment, vraiment hyper intéressants, c'est très très bien écrit, c'est du patch-turner aussi, il y a plein de suspense, c'est intelligent, c'est beau, c'est Sylvie Denis, la haute école, j'en dis pas plus pour pas spoiler, déjà on a du retard, voilà, donc à tout à l'heure.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour un pseudo-marathon du livre qui pourrait plutôt s'apparenter à une, comment dire, une démarche de sénateur à l'intérieur de 3-4 bouquins. Et vous venez d'entendre Police des Mœurs, Ville Souterraine, un groupe canadien de Montréal. Et c'est un morceau de 2011. Parce que comme d'habitude, Ville Souterraine, voilà, José qui sélectionne les morceaux de musique avec soin, environ 3 mois à l'avance, parce qu'on est extrêmement organisé, comme chacun sait, savait que j'allais vous parler d'un livre de Neil Gaiman que j'ai lu il y a 2 semaines, Neverwhere, qui est moi j'aime bien. Alors Neil Gaiman, c'est un auteur dont vous a déjà parlé, je crois, au sujet d'un bouquin qui s'intitulait American Gods. Et donc, voilà, Jean-Mathias me dit qu'on m'entend bien, mais on a coupé son micro, mais malgré tout, il arrive à faire du bruit. Ça, c'est des techniques de stalinien bien connues. Et je ne sais pas si c'est couper les micros ou autre.
C'est rouge.
Comment et donc,
là, c'est moi qu'on entend, je pense, mais du coup, faut se brancher Michel, parce que Michel, on ne l'a plus.
Et donc voilà, quand on branche Jean-Mathias, on n'a plus Michel. C'est la lutte pour les places, la lutte pour le pouvoir. C'est terrible.
Ça a l'air bien ton livre.
Oui, mon livre a l'air bien, dit Jean-Mathias. Alors je répète ces trucs, il a profondément raison. Alors si vous voulez, qu'est-ce que c'est que donc, le livre Neverwhere de Neil Gaiman ? C'est un livre consacré, qui raconte l'histoire d'un type qui est monté à Londres depuis l'Écosse pour réussir sa carrière. Dans les bureaux, gagner beaucoup d'argent, épouser une femme qui gagne encore plus d'argent que lui ou moins, mais qui a de l'avenir, etc. Mais il n'est pas tout à fait en place d'une certaine manière. Il arrive un peu par hasard, il est très très distrait. Et un jour, quelqu'un surgit sur son passage, quelqu'un qui lui demande de l'aide, et il va fournir cette aide. Et ça va le précipiter dans un monde dont il ignorait l'existence, dont le monde de le Londres d'en bas. Lui, il était dans le Londres d'en haut, et le Londres d'en haut ne voit pas le Londres d'en bas. Et c'est, le Londres d'en bas, c'est un monde où les règles sont totalement différentes, où la survie est compliquée, et qui au début, lui est évidemment complètement étranger, dans lequel il est projeté. Alors, c'est une espèce, si vous voulez, d'Alice au Pays des Merveilles, revue et visitée par un marxiste américain, peut-être. Parce que, évidemment, vous voyez, Londres d'en haut, Londres d'en bas, Londres d'en haut qui ignore le Londres d'en bas, dans lequel la vie est très très dure et dans lequel on survit. Bon, évidemment, la fable politique est transparente. Il n'empêche que c'est un bon roman. Et c'est pas un roman à thèse. Et ça le rend, assez entraînant, assez touchant. Très très vite, on rentre dans cette espèce d'univers déjanté, un peu d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, je pense que j'ai déjà trop parlé. C'est la faute de Jean-Mathias. Et là, j'ai essayé de vous présenter le bouquin Neil Gaiman, Neverwhere. On va passer à autre chose. Radio Libertaire 89.4, toujours Jeudi Noir. On vient de vous passer un morceau de Marauder. Marauder, ce sont des Suissesses, me semble-t-il. Suissesses, il y a peut-être des Allemandes d'ailleurs dedans, de Leipzig peut-être, je ne suis plus trop sûr, avec le morceau Nothing Will Change. Alors, Nothing Will Change, rien ne changera, puisque je vais vous parler d'un bouquin d'une autrice suédoise, Karin Tidbeck. Alors moi j'ai mis des autrices parce qu'avec les poilus là, il y avait trop d'auteurs, donc voilà, j'ai fini féminisé un petit peu tout ça. Et Karin Tidbeck, c'est un des bouquins que j'ai adoré lu cette année là, ou en tout cas assez récemment. Donc c'est encore un premier roman. Je vais parler plusieurs fois de premier roman là. Sorti en 2012 en suédois et traduit en 2018 en français, en anglais et en français, je crois, en même temps, me semble-t-il. Alors, c'est encore une fois, parce que j'en ai présenté un sacré paquet de bouquins comme ça, de colonies sur d'autres planètes. Donc, on a des colons qui passent par un trou de ver et qui se retrouvent sur une planète pendant plusieurs générations.
Et donc c'est une planète qui est pas hyper funky, c'est pas hyper sexy, hein, c'est la planète de la poussière grise, tout ça. Et on met en place là-bas, pour que tout se passe bien, une très forte bureaucratie, bien sûr. Voilà. Le matériau principal de construction, c'est une sorte de champignon qu'il y a là-bas. Et ce champignon, il le tient en place. Donc Nothing Will Change, le morceau que j'ai choisi, machin, c'est le rapport. Il faut nommer les choses tous les jours pour que les choses tiennent en place. Donc voilà, tous les matins, les enfants, depuis la plus tendre enfance, doivent répéter stylo, 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 pour que le stylo reste un stylo. Mur, 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 papier, 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 etc. D'ailleurs, le papier est un matériau très recherché, puisque le vrai papier est très rare, et le vrai papier dure, tandis que le papier de là-bas, de cette planète-là, ne dure pas. Et ça va être un des enjeux, justement, de ce roman. Puisque cette bureaucratie-là souhaite avant tout imposer un dogme qu'aujourd'hui est comme hier, et effacer l'histoire. Donc pour ça, il va y avoir, je vous dis pas tout, hein, parce que ça va spoiler, et puis j'ai pas envie de vous enlever comme d'habitude toutes les petites surprises de ce roman qui est assez court. En tout cas, le thème de l'effacement du passé est présent, et l'héroïne...
Remarquez la formule, le thème de l'effacement du passé est présent. José est un poète.
Non, parce que je l'ai écrit, ça fait 3 mois que je l'ai écrit, donc j'ai réussi à le caser. Et c'est une poétesse, justement, encore le lien, merci pour ton intervention, que je prévoyais depuis 3 mois. L'héroïne est une poétesse et qui enquête sur des choses un peu bizarres qu'elle voit dans cette bureaucratie très très autoritaire, sournoisement autoritaire. En tout cas, comme le dit l'autrice, c'est le langage qui sert de structure sociale à ce monde. Et on se retrouve avec quelques personnes qui souhaitent renverser cet ordre social qui est induit par ce langage oppressant. Et ce bouquin se veut un petit peu un commentaire de 1984, justement, par rapport au jeu, mais pris sous un autre angle, avec un langage qui est plus oppressant que libérateur. Mais voilà, c'est pas contradictoire avec 1984, mais c'en est un petit commentaire. Voilà, donc c'était Karine Tidbeck avec le roman Amatka. Et puis on va vous passer un morceau de on vous dira tout à l'heure. Today's your birthday. We are going to kill you. Silly celebration. There's no logic for it. The survival of your species. A contradiction of terms.
Salut à tous, toujours Jeudi Noir, toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre Cerveau Tron, un titre qui s'appelle Bad Birthday, c'est un groupe américain. Bad Birthday, si vous me corrigez, hein, si je me plante, c'est un sale anniversaire quoi, qui tourne mal, et ça tombe très bien parce que le livre que je vous présente dans le cadre de ce marathon du livre là, c'est un livre de Laurent Mauvignier qui s'appelle Histoire de la nuit au pluriel, et qui justement raconte notamment l'histoire d'un anniversaire qui tourne mal. Alors il faut avoir un petit peu une idée du décor de ce livre là. C'est une espèce de roman noir qui va tourner un petit peu au conte d'horreur, si vous voulez avoir une idée. Ça se passe au fin fond de la campagne française, quelque part dans une région assez éloignée de l'Île-de-France, dans un petit hameau, avec quelques personnages qui sont là, qui vivent ensemble, qui voisinent, comme on dit. Alors il y a Bergogne, qui est un agriculteur, qui est là avec sa femme Marion, une petite fille Ida, et puis alors voisine qui est une dame plus âgée, Christine, qui vit dans une maison un petit peu à l'écart du hameau et qui, elle, est une artiste peintre. Alors on comprend petit à petit que elle est passée finalement un peu à côté de sa carrière et que elle a connu un certain nombre de déboires, alors que bon, elle a eu des débuts plutôt prometteurs, et elle a décidé comme ça de se retirer un petit peu à la campagne, dans un hameau isolé. Et elle s'accommode très bien, voilà, de son voisin notamment Bergogne, qui est plus jeune qu'elle, hein, dont elle a connu les parents elle en arrivant, et qui a repris la ferme. Et elle s'entend, voilà, il y a une vraie complicité entre eux. Et donc le roman commence par présenter cette petite communauté, voilà, qui est sans très caractéristique majeure, jusqu'à ce que, alors donc en fait voilà, on suit un petit peu le plan de vie de chacun des personnages, jusqu'à ce que à un moment donné les choses commencent à tourner de manière un peu différente et un petit peu inquiétante, parce que un soir, des inconnus arrivent les uns après les autres comme ça dans ce petit hameau. Et vont en fait commencer à poser un certain nombre de questions étranges. D'abord donc à la jeune fille qui est là, à la vieille dame qui est là, qui la récupère après l'école. Et on sent petit à petit qu'il y a quelque chose de menaçant qui se prépare. On ne sait pas qui sont ces inconnus. Et petit à petit, la situation va devenir carrément flippante, puisque dans ce hameau perdu, les personnages vont arriver les uns après les autres. Donc d'abord le père de la petite fille, puis la femme, sa femme qui rentre du travail, les deux étant retard, etc. La situation est là, et c'est à partir de là qu'effectivement on voit que ces destins tranquilles en fait basculent, et que tous ces personnages, et notamment la femme, a un passé. Alors je spoilerai pas. Cela dit, je suis obligé d'aller au moins jusque là, puisque le titre de départ me spoilait à moitié. Un passé.
Dis-nous quel passé.
Mais le passé, un passé qui ne passe pas, quoi. Un passé qui va là, qui va les enfermer. Tout ça étant vu à travers les yeux petit à petit de cette jeune fille qui va devoir s'enfuir de la maison au milieu des coups de feu, des couteaux qui volent de tous les côtés. Je peux pas en dire plus que ça. Je peux pas le dire. C'est Histoire de nuit au pluriel, parce qu'évidemment, y a l'histoire dont je vous ai parlé, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres qui sont là derrière et qui nous inquiètent. C'est un super roman, en tout cas un super roman noir de Laurent Mauvignier. Et donc je m'arrête là-dessus, puisque je vais en dire trop, je m'arrête là.
Thank you.
Bonsoir, Radio Libertaire 89.4, toujours jeudi noir pour ce faux marathon du livre. Donc, avec une sélection musicale pointue et profonde, et des chroniques tout autant. Donc là, on vient d'écouter Cuscuta, Cuscuta, je ne sais pas comment ça se prononce, ça vient du Colorado, un morceau de 2015 qui s'appelle On My Deathbed. Puisque vous avez dû entendre les paroles, hein, puisqu'on comprenait très bien ce qu'il disait, c'était simplement des textes d'un poète chinois qui s'appelle Shu Lizi. Donc ils ont sorti un EP avec quatre mises en musique de poèmes de Shu Lizi, puisque je vais vous présenter un bouquin qui s'appelle La machine est ton seigneur et ton maître, de Yang, Jenny Chan et Shu Lizi. Donc Yang, c'est une ouvrière chinoise. Jenny Chan, c'est une sociologue chinoise qui allait chercher la parole d'ouvrier et d'ouvrière. Et Shu Lizi, c'est un poète ouvrier également. Voilà. Donc c'est un bouquin qui est sorti dans la collection 100 000 signes d'Agone il y a quelques années. C'est pas très vieux. Cette petite collection, si vous connaissez pas, qui est assez sympa. Texte établi et traduit de l'anglais par Celia Izoard, qui a aussi traduit la nouvelle version de 1984, hein, quand même, dans l'édition québécoise, et ensuite sorti chez Agone. Mais bref, je m'égare. Et donc, La machine est ton seigneur et ton maître, bon, un petit livre léger dans l'ambiance actuelle, dans l'atmosphère actuelle, ça parle de Foxconn. Alors Foxconn, c'est une immense usine, une ville-usine hein, en Chine, qui fabrique des iPhones ou des parties d'iPhone, des consoles. Donc leurs clients, c'est Apple, HP, Microsoft, Amazon, voilà. Toutes ces grosses boîtes qui font fabriquer en Chine, ça se passe là-bas. Alors ces usines, ce sont, comme j'ai dit, des sortes de villes où on travaille, on vit et aussi on meurt. Puisque en 2010, il y a toute une série de suicides et de tentatives réussies. L'année 2010, une vingtaine, je ne sais plus, 18 ou 20. Et cette usine a répondu un petit peu comme c'est France Télécom chez nous, non ? Donc qui avait fermé les fenêtres ou quelque chose comme ça. Donc là, ils ont posé des filets. Voilà, pour éviter ces suicides. Alors cette usine est quand même dirigée par des PDG, des CEO, qui ont des petits slogans comme un dirigeant doit avoir le courage d'être un dictateur quand c'est pour le bien de tous. Et il met des affiches un peu partout avec croissance, ton nom est souffrance. Voilà, donc ça met un petit peu le cadre. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc le petit bouquin, très court, est composé de trois parties. Le premier, c'est un témoignage de Yang, qui est un ouvrier et étudiant. Donc beaucoup d'étudiants doivent travailler comme ici pour se payer les études là-bas. Et c'est un texte assez court qui parle à la fois du mal-être au travail, de la violence verbale, des humiliations, etc. Mais aussi, c'est la partie un petit peu plus positive qui donne un peu d'espoir dans ce bouquin, puisqu'il parle aussi de sabotage des machines, où on met au rebut des bons produits juste pour faire baisser les cadences, etc. Donc c'est un témoignage assez court, écrit par lui-même, par Yang. La deuxième partie qui est assez longue, c'est la vie de Tian Yu, une ouvrière. Et donc ça a été recueilli, sa parole a été recueillie par une sociologue chinoise, Jenny Chan. Voilà, et donc elle raconte dans le détail les humiliations publiques, les punitions rituelles, les séances d'autocritique, la déshumanisation perpétuelle. Voilà, j'en dis pas plus, ça prend aux tripes, c'est assez affreux.
C'est de la propagande américaine, quoi.
C'est de la propagande américaine, voilà, c'est ça. Et dans la dernière partie, on a les poèmes de Shu Lizi. Donc Shu Lizi, c'est un poète qui travaillait dans cette usine à plusieurs reprises. Il est parti, il est revenu parce qu'il ne trouvait pas d'autre travail. Il a dû revenir plusieurs fois. Et ça l'a achevé puisqu'il s'est suicidé à l'âge de 24 ans. Et il a laissé quelques poèmes qui sont traduits ici. Ce sont des poèmes aussi qui prennent pas mal aux tripes et qui racontent son ressenti par rapport, son vécu par rapport à cette exploitation massive, cette déshumanisation, etc. J'en dis pas plus parce que là, rien que tout ce que vous pouvez imaginer, c'est en dessous de la réalité que vous pourrez lire dans ce petit bouquin. Donc, La machine est ton seigneur et ton maître, aux éditions Agone, par Yang, Jenny Chan et Shu Lizi.
Sure what I've been told, and I don't need it.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour son pseudo-marathon du livre. Et vous venez d'entendre un morceau de Devo qui s'intitule Sneaks. Et je vais vous présenter un bouquin de Max Brooks qui s'intitule Dévolution. Alors je pense que vous avoir déjà présenté son livre précédent qui s'intitulait World War Z. C'était il y a 10 ans, me dit José. Voilà, mais nous sommes restés jeunes, dans la tête et dans nos artères, évidemment. Et c'est un livre qui avait donné lieu à un film assez catastrophique avec Brad Pitt, où on voyait Brad Pitt en train de sauver le monde tout seul comme un grand. Mais Max Brooks, c'est quelqu'un qui justement fait partie de ces auteurs de science-fiction ou d'horreur, qui de fait prennent des thèmes classiques de la science-fiction ou de l'horreur et les intègrent dans des perspectives contemporaines, disons. Et par exemple, World War Z visait à montrer la fragilité du système capitaliste de distribution des biens, entre autres, à travers le thème de la pandémie zombie. Alors là, Dévolution, c'est un peu différent, mais Dévolution, je pense qu'il est possible qu'il ait commencé à l'écrire, j'ai pas vérifié s'il a commencé à l'écrire avant la crise du Covid ou après, parce que c'est l'histoire d'un petit groupe de cadres high-tech qui peuvent tout faire depuis chez eux sur leur ordinateur et qui vont se planquer dans une espèce de village fondé par un PDG high-tech, lui aussi. Et alors ils sont tous ils disent on a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait ils font venir par livreur automatisé des trucs de super loin, et le village a été construit sur des bases ultra technologiques mais invisibles, et donc ils ont une liaison internet haut débit mais ils n'ont pas de voisins, et tout est livré par des machines. Et voilà, et donc on sent les hautes études, tous, gros postes, tous, mais on ne vit pas avec le vulgaire, on s'est retranché dans la nature, et on vit à 5. Enfin, 5, j'exagère, il y a 10 maisons, genre. Et voilà. Alors ça, c'est le début. Et ça a la mise en place. Alors je ne vais pas spoiler comme Jean-Mathias tout à l'heure, parce que Jean-Mathias, tout le monde sait qu'il spoil. J'en profite, comme il ne peut pas parler, pour l'attaquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un volcan qui est non loin de chez eux explose. Et toute leur jolie connexion internet tombe. Et là, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Et donc, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est compliqué. Là, ils sont en train de dire des choses horribles sur moi dans mon dos. Je ne veux pas dire, mais c'est horrible. L'ambiance dans le studio est absolument épouvantable. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Bah, d'une certaine manière.
Tu peux pas nous le dire quand même.
Un volcan. Alors, je vais vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Les masques tombent. Ah là 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 là. Et voilà. Et là, Jean-Mathias, il est dégoûté. Il veut plus lire le livre parce que j'ai spoilé. Les masques tombent. Mais qu'est-ce qui va s'ajouter à ce masque? Alors là aussi. De toute façon, c'est sur la couverture du livre, je vous apprends, c'est sur la quatrième de couverture aussi, donc c'est pas vraiment un spoil. En plus de cet isolement, tout d'un coup, et ça c'est le côté horreur de Max Brooks qui revient, on s'aperçoit que le Bigfoot n'est pas un mythe. Et donc José a peur, voilà, et Jean-Mathias en était sûr. Donc il se trouve que cette communauté high-tech en rade, avec des gens qui ne savent faire que des PowerPoint, doit faire face au Bigfoot. Et donc ils sont foutus, comme dit José, mais ça c'est relativement évident depuis le départ. Alors, je vais pas spoiler le twist final, parce qu'il y en a pas, ou peut-être, vous verrez. Mais moi je vous recommande ce bouquin qui se lit assez bien et qui est
quand même une petite satire de l'espèce de société qui se voudrait écologique parce que hyper connectée et comment dire, détachée en quelque sorte du monde industriel classique et soi-disant polluant. Donc voilà, c'est un petit bouquin, ça se lit assez vite, et au départ c'est un scénario de film, Mel Brooks sait raconter une histoire, ça c'est une de, ça fait partie de la, souvent de la force des romanciers ou des romancières américains, et voilà, donc Max Brooks, Dévolution, et c'est accessible en poche.
Je prends la vie dans mes bras, d'un bon pas. Je me lève d'un bon pas. Je n'ai pas envie de pleurer. J'apprécie chaque jour comme étant le premier. De plaisir à venir et de sourire à donner. J'aime les abeilles, les pétales et les petites graines. Les bégonias, la datura et les magnolias. Sous mes pieds, de petits brins d'herbes et salés. Sur le dos, les oiseaux nagent comme des sirènes. Je respire.
Radio Libertaire 89.4, radio de la Fédération Anarchiste, donc toujours Jeudi Noir qui se poursuit pour un je ne sais pas combien dième bouquin. Là on vient d'écouter Ozibut, ouais, l'excellent Ozibut avec le morceau L'Oiseau de 2019, un petit CD qu'on peut trouver chez Gurdulu, petit label sympa. Et je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux, le morceau L'Oiseau. Ça va loin, c'est pointu et c'est profond, quoi, vraiment. De l'autrice états-unienne.
Je suis sûr que tu aurais pu passer du Polnareff que tout le monde connaît.
Les mots bleus ? Non, c'est Christophe.
Je suis sûr qu'à un moment, il parle des oiseaux au Polnareff, quelque part.
Et donc autrice états-unienne, encore un premier roman, quand même, de 2016. Donc, l'autrice s'appelle Charlie Jane Anders. Encore un bouquin qui a reçu le prix Nebula et Locus. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, je fais des recherches sur des autrices de SF ou des auteurs. On dirait que tout le monde a reçu le prix Nebula et Locus. C'est assez étonnant. Bon, c'est à chaque fois des super bons bouquins, pour le coup. Mais combien ils distribuent de prix chaque année? Ça, c'est une petite question qu'il faudra que je creuse. Mais bref, pour moi, c'est amplement mérité à chaque fois. Là, on se retrouve avec... voilà, Michel parlait d'un volcan qui a explosé, machin truc, tout à l'heure, avec Max Bruce. Et là, je me suis dit, mais on a lu le même bouquin. Bon, c'est presque ça. Donc, on se retrouve donc dans un bouquin de fantasy technoïde un peu bizarre. C'est encore une jeune sorcière. Alors, c'est toujours pas Harry Potter, mais c'est une jeune sorcière qui sait parler aux animaux. On la voit enfant. Et elle est amie enfant avec un gamin qui est vraiment un geek complètement technophile. C'est-à-dire que tout gosse, il arrive à inventer une montre à avancer dans le temps, de 2 secondes uniquement. Mais bon, je sais que c'est pas grand-chose, mais bon, quand même, pour un gamin de 10 ans, c'est pas mal. Voilà, et ça a l'air tout à fait normal dans l'univers créé par Charlie Jane Anders, ce genre de choses. Et puis on les suit à l'âge adulte. Sauf que la fin du monde approche, il y a plein de catastrophes, des tremblements de terre, des ouragans, etc. Aucun rapport avec le monde actuel, quoi. Et là, ces deux enfants devenus adultes vont avoir une approche différente par rapport à cette fin du monde qui arrive. Donc, l'approche de cette jeune sorcière qui a trouvé d'autres sorciers pour la guider et puis lui donner un cadre en sorcellerie. Et puis, ce technophile qui est devenu un méga geek, une sorte de Elon Musk, vachement plus sympa quand même, hein, faut pas déconner, mais en tout cas avec autant de pouvoir, et qui va avoir une approche plutôt technologique contre cette fin du monde. Et donc, ils vont se retrouver, s'opposer, etc. Je vous raconte pas tout, mais en tout cas c'est un mélange de genres assez incroyable, ce bouquin, puisqu'on se retrouve, on est au début d'une sorte de kid littérature, voilà, du premier Harry Potter, on dirait, et puis avec des passages très très adultes, hein, même des bonnes scènes de cul, hein, quand même, pas forcément scènes, mais en tout cas des propos, et là tu dis c'est pas forcément pour les petits enfants, et c'est pas malsain du tout, non, c'est très sain. Jean-Mathias pense, non, il y a du cul sain aussi, ça existe. Et scène malsaine, jeu de mots. Ah oui, il y avait un jeu de mots que j'avais pas compris. Voilà, mais en tout cas, c'est un truc sorcier contre technophile, contre l'apocalypse, tout ça. Et jamais ça ne tourne Harry Potter, donc ça c'est déjà un bon point, même pour les fans d'Harry Potter qui nous écoutent en ce moment même, hein, n'est-ce pas, hein. Coucou, toi qui te reconnais. Et on va passer à un morceau qui s'appelle la Bretagne, parce qu'on aime bien la Bretagne. C'était donc Charlie Jane Anders, Tous les oiseaux du ciel.
En Bretagne, très identitaire, manger des châtaignes au nord du Finistère, province historique, elle se revendique, les tribus celtiques et l'histoire de la terre. Régional, souvenir du passé, large cathédrale, farine de blé, rapport difficile, métropolitaine, laissez-nous tranquilles, chante les bigoudaines. Culture de pommes de terre. De la mer, battre la campagne, nuages de poussière, vacances en Bretagne, électricité dans l'air. Il faut que je m'éloigne, je suis à découvert. We'll be right back.
Les Stratocastors avec un titre qui s'appelle La Bretagne sur Radio Liberté à 89.4 et c'est Jeudi Noir, toujours dans ce, dans cette quasi dernière ligne droite de ce quasi marathon du livre aujourd'hui. Alors pourquoi La Bretagne des Stratocastors? Ben parce que en fait le livre dont je vais vous parler maintenant est écrit par Tanguy Viel et que Tanguy Viel, comme son nom ne l'indique pas, est originaire de Brest qui se trouve être en Bretagne. Et deuxième raison, et là on voit encore une fois la profondeur et la pointe de la sélection, la poititude de la sélection musicale de ce soir, c'est que le roman écrit par Tanguy Viel, dont je vais vous parler, se passe sur la rade de Brest, qui se trouve être en Bretagne.
Non.
Ben oui, voilà. Donc tout converge, tout concourt, tout conspire. Et alors le titre maintenant quand même, article 353 du code pénal. Voilà, article 353 du code pénal. Alors je vous dirai pas de quoi il s'agit dans ce livre, parce qu'on m'accuse de spoiler, donc je vais essayer d'en dire le moins possible. Simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire, donc, j'ai déjà dit que ça se passe sur la rade de Brest, sur cette espèce de grande baie, là. Et alors, vous avez une espèce de dialogue, une discussion entre un personnage. Alors, ça commence par un meurtre, quand même, ça, on peut le dire. Ça commence. Ça, on a le droit de spoiler le début d'un livre. Donc, ça commence par un meurtre. Puis, ensuite, par une discussion entre, il semblerait que ce soit celui qui est le meurtrier et un magistrat. Et on a, du coup, au cours de cette discussion, une espèce de récit de tous les événements qui ont conduit à ce meurtre initial. Et, on plonge là dans une espèce de d'univers alors qui est assez touchant. On est sur un roman noir, hein, sur un roman policier. Alors voilà, il y a des promoteurs immobiliers véreux, il y a des chômeurs qui se laissent un peu manipuler par le miroir aux alouettes d'investissements douteux. Il y a un maire anciennement socialiste qui décide, pour essayer de sauver l'école de son village, de participer aussi à des investissements véreux, et puis qui va y laisser un peu sa peau dans cette affaire-là. On est dans cette espèce d'univers d'après la fermeture des chantiers navals militaires de Brest, où toute une partie donc des ouvriers des arsenaux ont empoché une prime pour se taire et pour accepter cette fermeture, et puis du coup sont un petit peu en quête de rebond sur la suite. Alors, il y a ceux qui se mettent un peu à la pêche, et puis il y a ceux qui font dans l'investissement immobilier, voilà, et ça tourne mal avec à la fin. Alors je vais pas donner la fin, parce que en fait c'est à la fin que vous comprenez le sens du titre du livre. Voilà, c'est la fin qui dit, hein, pas un espèce d'effet de boucle, pourrait-on dire, entre le début et la fin. Je conseille, en tout cas, c'est un très chouette polar, avec des personnages attachants, chouettes également. On peut le dire, en fait, c'est comme un polar un peu de gauche. Voilà.
À l'heure actuelle, je sais pas si tu peux le dire. Hein.
Ben, voilà. Ce sera la dernière chose que je dirai sur ce livre, de peur d'en dire.
On connaît la porte.
Trop, quoi, voilà.
On vient de chercher.
Bon.
Entrez pas. Tiens la porte, Michel.
Article 353 du code pénal de Tanguy Viel. This is Drive the Man, electronic stop. Tuning into your heart. A countdown event, alternate sequences, space lock from the start. Over.
Driving the man, I'm coming down. Oh. Super sonic space. lunch running on surround the moon, boy.
Radio Libertaire 89.4, radio de la Fédération Anarchiste. Alors j'ai coupé un petit peu ce super morceau de Ernest Flippin Too, Supersonic Space Lady. C'est un morceau de 82 qu'on retrouve, qu'on a pu retrouver récemment sur une compile afro-futuriste. C'est un morceau dont on avait perdu complètement trace. Et on ne sait pas ce qu'il a fait d'autre, Ernest Flippin Too. Voilà. Tout ça pour présenter donc Supersonic Space Lady, pour présenter Lady Astronaute, le 1. Le tome 1 qui s'appelle Vers les étoiles. Alors en français, parce que la version états-unienne est un peu plus compliquée. L'autrice, c'est Mary Robinette Koval. Marie Robinette Koval, hein, on va dire ça comme ça. C'est sorti en 2018. Vous savez quoi, ça a obtenu les prix Hugo, Nebula, Locus. Alors, hein, quand je vous disais.
Hugo, c'est plus rare. Et en général, quand vous voyez un prix Hugo, Victor foncé.
Hector Nebula, Adolphe Locus, qui sont ces gens? Et donc c'est une autrice états-unienne née en 69, hein, pour vous situer la génération, donc c'est du maintenant quoi, et qui est aussi marionnettiste pour la petite histoire. Et donc cette autrice considère l'écriture de fiction comme, je cite, un acte politique. Et donc tous ces personnages sont situés explicitement, c'est-à-dire que chaque personnage, elle tient à dire leur milieu social, leur genre, leur race, leur orientation sexuelle, etc., pour montrer d'où ils parlent, où ils se situent et ce qui va influencer leurs actions ou pas. Mais en tout cas, les situe. Parce que c'est un acte politique, Jean-Mathias, hein, parce qu'il me demande pourquoi. Voilà. Et donc voilà, donc, ça se passe en 1952 aux États-Unis. Et bon, encore une catastrophe, encore une fin du monde. J'ai présenté quand même beaucoup, beaucoup de bouquins là-dessus avec... Il faut qu'on quitte la Terre pour trouver une nouvelle planète vivable, etc., des colonies et tout. Eh bien, c'en est encore un. Et donc, il y a une météorite qui tombe sur Washington, D.C. Donc, grand changement climatique, etc. Et donc, il y a un couple, donc notre héroïne, qui est mariée à un ingénieur, qui bosse aussi... Alors, ce n'est pas la NASA en 52, donc c'est la pré-NASA, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'agence spatiale, machin. Et donc, ce couple-là
ça
essaye...
Ça s'appelait les nazis, c'était Werner von Braun.
Il y a Werner von Braun, etc. Tout à fait. Mais pas beaucoup. Et donc, ils essaient de convaincre les autorités US que c'est quand même, le changement climatique, c'est quand même quelque chose. Donc, toujours rien à voir avec l'époque actuelle. Il y a un film qui est sorti là-dessus récemment, il me semble. Voilà. Mais ça reste pas trop longtemps là-dessus. Hein, donc, voilà, ils se heurtent à tous les va-t-en-guerre ricains, mais c'est un coup des Russes, un coup des Chinois, etc., cette météorite. Mais c'est surtout basé sur la lutte des femmes états-uniennes dans l'accès à des postes de pilotes. Donc elle est déjà pilote, mais pilote d'avion. Hein, pendant la guerre, elle s'est fait remarquer pour, dans l'escadron des femmes qui ravitaillaient, etc., les pilotes hommes. On parle également des femmes calculatrices qui sont une réalité. Là, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais les femmes calculatrices à la NASA, c'est assez intéressant comme histoire. Et donc, cette héroïne lutte contre le sexisme, le misogynie, le patriarcat, etc., pour avoir une place dans la navette du nouveau programme spatial. Et donc, elle rencontre un groupe de femmes pilotes. Et là, elle est juive. Et donc avec son mari, ils sont juifs, et ils ne connaissent pas du tout d'autres discriminations que l'antisémitisme, et donc ils sont confrontés aussi à, on est en 52 aux États-Unis, donc à une autre discrimination des femmes pilotes noires. Ça rappelle un petit peu une excellente série en 2-3 saisons, là, For All Mankind, il est l'heure, je sais. Et donc voilà, ça s'appelait Marie Robinette Koval, Lady Astronautes 1, Vers les étoiles. Et juste avant que je vous passe le dernier morceau...
On a cancelé José.
Voilà, mais cancelé. Mais je dirais que Petra Piedbiche, voilà, notre cher ami, a sorti un bouquin qui s'appelle Soigner son pelage, qui est une compilation de ses textes avec des illustrateurs et illustratrices, voilà. aux éditions de L'Assaillante, mais je mettrai le lien sur le site gurdulu.org, jeudi noir, il est l'heure. Donc, bisous, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. On va se quitter avec Satcher en acide, avec Throws a Book at Me. Ne me jette pas un livre à la gueule comme on vient de vous faire pendant une heure. Voilà, à bientôt.
LBC Radio Top 20 Share Check. In association with Framlington Unit Trust.
Barclays Bank down 5 at 598. Bass down 5 at 945. BAT down 7 at 660. Blue Circle down 7 at 470. British Gas down 2 at 168. BP down 1494. That should be 349, I'm sorry. British Telecom up 2 at 262. GKN down 2 at 405. Glaxo down 15 at 1415. Grand Met unchanged at 570. Officer Lee down 1 at 483. ICI down 27 at 1565. Jaguar down 5 at 577, Land Securities up 3 at 575, Marks and Spencer down 1 at 250, Oil Insurance down 35 at 540, Corn EMI unchanged at 720, and Unilever down 12 at 580.
Shows me crazy things, and the paper tells me crazy things. I'm not crazy, or at least not the way I'm supposed to be. Don't throw the book at me, we'll try for the best. I guess it's best for me to say, shame, not the job, it's a request.